Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Bonjour à tous et merci à vous tous qui nous rejoignez sur les antennes de Radio Capi pour ce nouveau numéro du magazine Étoile qui reçoit aujourd'hui Jean-Paul Kibambe, professeur à l'université de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également secrétaire chargé de l'enseignement au sein du département de gestion des ressources naturelles. Nous sommes toujours à l'UNIKIN. Et vous êtes également chargé des questions liées au changement climatique et REDD+ au sein de la Wildlife Conservation Society, un projet financé par l'USAID. Vous avez 38 ans, ça ne vous dérange pas qu'on dise votre âge, dont le parcours de l'enseignement congolais, c'est assez particulier d'avoir un professeur, entre guillemets, aussi jeune.
Tout à fait, c'est particulier. Mais bon voilà, il commence à en avoir de plus en plus, parce que nous tous, on a l'impression que les professeurs d'université sont ceux qui ont voilà des cheveux blancs, ils sont très âgés, mais il y a une relève académique qui se met en place. Et je pense qu'avec d'autres collègues, nous faisons partie de cette prochaine cohorte de professeurs d'université qui ont obtenu leur thèse à moins de 40 ans et qui sont professeurs à moins de 40 ans.
Alors quel est le cursus normal, ou plutôt combien de temps ça prend pour être professeur quand on compte qu'on a terminé ses études secondaires à 17 ans?
Voilà, donc moi j'ai terminé mes études secondaires justement à 17 ans. J'ai eu la chance d'être parmi les lauréats de la République. Et donc par la suite, il y a 5 années d'université, donc je suis ingénieur agronome à l'université, donc 5 années d'université, malgré les adversités au pays où il y avait des années qui étaient beaucoup plus longues que d'autres, mais donc finalement on va compter en moyenne 5-6 ans d'université sans jamais reprendre. Et donc après ces années d'université, il y a généralement une spécialisation dans un domaine précis, ça prend 1 à 2 ans, et donc ça vous fait déjà, on va dire, 8 ans d'études. Et ensuite il y a le doctorat, qui généralement s'étale entre 4-6 ans, même si ça, la tendance est à ce que ça se raccourcisse. Donc j'ai fait mon doctorat en 4 ans. Et donc lorsqu'on fait la somme, bon, ça donne une dizaine d'années d'études.
Vous venez de le souligner, vous avez fait vos études à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. Vous avez été retenu comme assistant. Vous travaillez ensuite pour un projet financé par l'USAID. Oui. Ce qui vous intéresse, vous, c'est les images satellitaires.
C'est exact. Je pense que cette passion est née pendant mes études à l'université. Donc j'ai eu un professeur dont je suis devenu l'assistant par après. Je pense que je peux le citer, c'est le professeur Raymond Lumbuenamo, qui a été pour moi et pour beaucoup d'autres un véritable modèle. Parce qu'en le voyant donner cours, et donner cours justement d'images satellites, j'ai tout de suite compris, voulu lui ressembler. Et donc pourquoi? Parce que il venait dans l'auditoire à l'heure, il donnait ses cours de manière très explicite, avec en y mettant beaucoup de cœur. Il inspirait la jeunesse à aspirer à de grandes choses. Il a fait ses études aux États-Unis, il est revenu au Congo pour donner cours et enseigner. Il aurait pu choisir de rester aux États-Unis. Et donc c'est à partir de là, je crois, que je me suis senti porté vers l'utilisation des images satellites pour l'observation de la Terre. Donc c'est cela un peu la thématique générale.
Oui.
Et donc
mais c'est une faculté que beaucoup d'étudiants n'embrassent pas, en fait, hein. Ça, il faut le relever quand même.
C'est vrai, c'est vrai que bon voilà, c'est déjà une faculté d'ingénieurs, et donc les gens sont peut-être un peu moins portés à ces études-là, et il y a aussi une sélection qui est assez rude. Moi je me souviens qu'en première année nous étions environ 400, et en deuxième année nous étions à peine autour d'une centaine, en troisième ça se stabilisait un peu. Et pour les années de spécialisation, donc les deux dernières années, j'étais dans une promotion avec 7 collègues. Nous étions 8.
7 étudiants seulement.
Voilà.
Alors, Jean-Paul Kibambe, vous êtes polyglotte, hein, vous parlez français, swahili, lingala, un peu d'italien, espagnol et anglais parfaitement. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez cette petite anecdote de votre premier emploi au sortir de l'université.
Ah oui.
mais vraiment, comme par hasard, vous passez votre interview en espagnol.
Voilà. Lorsque je termine mes études universitaires ici à l'UNIKIN, pendant le cours de mes études, je m'intéressais beaucoup à l'espagnol parce que je trouvais que c'était une langue qui était très belle et qui, il y avait...
Vous avez appris sur le tas, hein.
J'ai appris sur le tas, c'est ça. Donc, en lisant quelques ouvrages à gauche, à droite et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, je ne suis jamais allé en Espagne, pour vous dire.
Ok.
Et donc, avec cet apprentissage-là, j'ai commencé à écouter, Et donc sur mon CV, à la fin de mes études universitaires, parmi les langues parlées, je mets espagnol. Et donc je postule pour un poste auprès de African Wildlife Foundation, AWF à l'époque, où ils recherchaient des personnes qui pouvaient travailler dans le domaine des images satellites, etc. Et la personne qui fait passer les interviews, c'est un Belge qui a vécu longtemps aux États-Unis et a une compagne qui est du Guatemala. Et donc forcément, ils parlent tous les deux en espagnol. Et lorsque mon dossier arrive sur la table après la présélection, parce que bon, il y avait quand même quelques distinctions à l'université, donc j'étais quand même bien classé, et il observe mon CV, mon curriculum vitae, et il se dit, tiens, un Congolais qui vient de quitter l'université, qui manifestement n'a jamais voyagé,
oui,
et qui met sur son CV qu'il parle espagnol. C'est l'occasion de le ridiculiser, sans doute, ou en tout cas...
Non, de l'exercer peut-être.
De l'exercer peut-être
oui.
aussi. Et donc, j'arrive pour l'interview et première parole, « Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal ?» Tout de suite en espagnol.
Oui.
Et je réponds, « Todo bien ?» Et voilà, toute l'interview était en espagnol. Et à la fin, il me dit, « on vous prend. »
Vous avez le job.
Vous avez le job. Un jeune Congolais comme ça, qui parle espagnol aussi couramment, celui-là en donne le job. Il a quelque chose en plus.
Alors ça, on le verra, oui, effectivement, au cours de cette émission. Donc vous travaillez pour c'est une ONG.
Oui,
hein,
c'est une ONG.
Vous travaillez pour cette ONG avant finalement de vous décider, entre guillemets, d'abandonner un peu pour aller faire une spécialisation en Belgique,
oui,
où vous allez faire votre DEA, votre diplôme d'études approfondies à l'université Louvain-la-Neuve.
Oui.
À Louvain-la-Neuve.
À Louvain-la-Neuve.
Comment ça se passe par rapport aux autres étudiants, vous qui veniez d'arriver, est-ce qu'il faut travailler un peu plus, est-ce qu'il faut se donner un peu plus parce qu'on est, on est africain,
mm-hmm,
on est congolais de surcroît?
Oui, donc disons qu'après donc, l'expérience à AWF, donc j'étais déjà nommé assistant à l'université de Kinshasa.
Oui, ça c'est
donc,
vrai.
Je faisais des prestations à AWF. Et donc, j'ai postulé pour une bourse de la coopération technique belge. Donc, la CTB, avec des critères, qui sont très, très stricts. Voilà, il faut avoir eu des distinctions, etc. Et donc, j'obtiens la bourse et je vais en Belgique pour faire mon DEA. Effectivement, il faut se donner un peu plus que les autres parce qu'on doit s'habituer. C'était mon premier séjour en Europe. Il y a beaucoup de repères qu'on n'a peut-être pas encore. Et le style ou la manière d'enseigner et de pouvoir apprendre est totalement
différent.
Est assez différent,
mm-hmm,
de ce à quoi on est habitué
ici
au Congo. Et donc oui, on a redoublé d'efforts et on est aussi porté un peu par cette fierté de dire que je dois absolument réussir. Donc j'étais dans une promotion où on était peut-être 3 Africains simplement sur une centaine. Et donc, on se disait, on doit absolument réussir. Et donc, pour ça, il y a des matières qu'on n'avait jamais eues ici. Il y avait des livres de bibliothèques qu'on n'avait jamais parcourus parce que les bibliothèques ici étant un peu moins fournies, on n'avait pas accès au départ à toute cette... Et donc, on devait mettre les bouchées doubles.
Une autre chose que vous avez relevé, c'est aussi que dans votre domaine, la plupart des manuels sont en anglais.
C'est exact.
Oui.
Donc la plupart des manuels étaient en anglais, le sont encore d'ailleurs, même si ça commence, le français commence à émerger de plus en plus dans ce domaine.
Oui.
Mais c'est typiquement un domaine où l'anglais est indispensable. Et lorsque je termine mon DEA avec une grande distinction, mon promoteur de DEA à l'époque, qui sera mon promoteur de thèse par la suite, me propose de postuler pour une bourse privée de l'Université catholique de Louvain pour pouvoir faire mon doctorat. Mais entre-temps, je dois revenir au pays parce que j'ai une bourse de la coopération belge à travers laquelle je me suis engagé, après ma formation de DEA, à revenir au pays. Et donc, lorsque je reviens, d'ailleurs, quelques amis, quelques collègues congolais là-bas qui me disent, qu'est-ce que tu vas rentrer faire au pays? Tu es déjà ici en Belgique, que tu as des opportunités avec ton professeur,
oui,
qui t'aime bien et qui va sans doute trouver quelque chose à faire. Mais je décide qu'il faut rentrer parce qu'il faut respecter l'engagement de la bourse, où
oui,
il est clairement stipulé qu'à l'issue des études, on retourne au pays pour renforcer le corps enseignant.
Oui.
J'étais alors assistant, donc je pouvais revenir pour continuer. Et c'est lorsque je reviens, en ayant postulé pour la bourse, que je travaille pendant un an, 6-7 mois ici à Kinshasa, toujours dans le même domaine, cette fois-là pour un projet de l'Union européenne qui s'appelle l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui est un projet qui continue jusqu'à ce jour. Et et quelques mois plus tard, j'obtiens ma bourse et je vais en Belgique.
Vous retournez en Belgique.
Je retourne en Belgique pour mon doctorat cette fois-là.
Qu'est-ce qui est différent, puisque vous étiez avant assistant ici à l'université de Kinshasa. Est-ce que vous voyez la différence entre les étudiants, entre l'enseignement? C'est un peu plus clair. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Oui, ce que je peux dire, d'abord, premièrement, on reçoit une très très bonne formation dans nos universités ici en RDC. À condition que l'on soit bien appliqué comme étudiant.
Oui.
Parce que la base est vraiment la même. Ce qui a beaucoup changé, c'est l'aspect technique et l'accès aux outils avancés, de nouvelles technologies de l'information, des bibliothèques, etc. C'est ce qui a beaucoup changé. Mais la base en elle-même, elle est solide. La base que l'on reçoit ici.
La base de l'enseignement.
La base de l'enseignement est solide. Et si l'étudiant est appliqué correctement, ben, on se retrouve. On prend un peu de temps à s'adapter, mais on n'est pas perdu, on n'est pas totalement largué, comme on dit. On peut effectivement y parvenir.
Est-ce que vous voyez la différence entre vos étudiants ici à l'Unikin et vos étudiants là-bas à Louvain-la-Neuve?
Oui, il y a une différence qui est assez notable, qui est liée au fait que à Louvain-la-Neuve, les étudiants étaient engagés pour pouvoir travailler et atteindre des objectifs de manière vraiment acharnée. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de loisirs, hein, à Louvain-la-Neuve, c'est une ville qui est très très festive, une ville étudiante, avec les 24 heures vélo, etc. Mais lorsqu'on est en période de session, lorsqu'on a cours, ben, l'université est quasi déserte, parce que les étudiants sont dans les auditoires. Après les cours, ils sont dans les salles de lecture, dans les bibliothèques. Par contre, ici, malheureusement, si vous allez à l'Unikin à 10 heures, vous trouvez plein d'étudiants à l'extérieur. Alors que les cours se donnent, alors que les bibliothèques sont ouvertes. C'est vrai qu'elles ne sont peut-être pas aussi fournies que celles qu'il y a dans d'autres universités, mais on peut quand même passer un peu plus de temps dans les bibliothèques à l'extérieur. Et donc c'est cette application que je remarque comme étant une différence. Évidemment, c'est facile de généraliser, on va dire comme ça, mais ça c'est très très frappant. Lorsqu'on va dans d'autres universités pendant les heures de cours, on est frappé par le fait que c'est comme s'il n'y avait personne. Et alors qu'ici c'est malheureusement le contraire. En espérant que les choses vont changer, en s'améliorant en tout cas.
Alors, je l'ai dit, vous êtes également le secrétaire chargé de l'enseignement au sein du département de gestion des ressources naturelles. Tout à l'heure, on parlait des manuels, en tout cas à la faculté d'agronomie, qui sont pour la plupart en anglais. Comment font justement les étudiants ici, qui sont plutôt d'expression francophone?
Voilà, donc à l'université, on est buté effectivement à ce problème-là, parce que la base en anglais n'est pas très, n'est généralement pas très très solide. Mais encore une fois, je pense que les étudiants congolais arrivent à s'adapter. Et ceux de l'Unikin en particulier, que je côtoie, ceux de ma faculté, arrivent à s'adapter. Et donc on les pousse à pouvoir oser se mettre à l'anglais. Ils ont quand même quelques bases dans les promotions de premier graduat. Et donc, si on les pousse et on les force, on leur dit, voilà, c'est quasi le chemin obligé, ben on arrive quand même à de bons résultats. Vous savez qu'il y a... J'ai deux anciens étudiants qui font actuellement leur doctorat dans l'une des meilleures universités aux États-Unis, dans notre domaine. Et lorsqu'ils étaient sur le banc de l'école et que je les avais, moi j'étais assistant, ils étaient mes étudiants, ben ils ne parlaient pas du tout anglais. Et aujourd'hui ils sont parfaitement anglophones. Et donc voilà, il suffit de se donner le temps de pouvoir apprendre et cela arrive. Et donc... Pour
c'est
moi,
possible.
Ce n'est pas un obstacle. C'est possible. Ce n'est pas du tout un obstacle. La langue, surtout pour nous Congolais qui déjà parlent, naturellement nous parlons 3-4 langues, lingala, français, swahili ou d'autres, les langues locales, ben, on a une facilité pour l'apprentissage des langues, ça c'est très clair. Donc l'anglais n'est pas du tout un obstacle si on se donne la peine de l'apprendre.
Alors, Jean-Paul Kibambe, vous avez mis en place avec d'autres professeurs ou d'autres enseignants là-bas à l'Unikin un laboratoire justement pour les étudiants, en tout cas les étudiants en accès gratuit, si je ne me trompe pas, à ce laboratoire-là, pour pouvoir justement faire leurs recherches. Vous me dites que l'idée ou l'objectif, c'est de former l'élite congolaise à cet outil technologique qui pourrait paraître un peu difficile. Alors, parlez-nous de la naissance de ce laboratoire. Comment vous avez fait pour le mettre en place, justement? Parce que c'est assez coûteux comme projet.
Oui. Donc ça rappelle de bons souvenirs. Donc c'est le laboratoire qu'on a appelé le laboratoire de l'Observatoire satellital des forêts d'Afrique centrale, qui a été mis sur pied il y a environ 15 ans maintenant. Et il a été monté avec une idée simple, de dire ces outils de suivi de la couverture forestière, suivi de l'observation de la Terre par satellite, nécessitent du matériel. Il faut des ordinateurs, il faut des images satellites, il faut des disques durs, il faut un laboratoire bien équipé. Eh bien, nous avons demandé à des bailleurs de fonds, essentiellement l'USAID, qui a financé ce laboratoire-là pour pouvoir donner aux étudiants cet outil. Et donc, ça fait un peu plus de 15 ans, mais autour de 15 ans, que ce laboratoire existe. Et nous accueillons des étudiants chaque année que nous formons à l'utilisation de cet outil. Et nous sommes extrêmement exigeants sur la qualité des étudiants que nous recevons là-bas, parce que nous savons que c'est un domaine qui est porteur, un domaine d'avenir pour lequel il faut une sélection rigoureuse.
Oui.
Et nous ne fonctionnons que sur base du mérite. Celui qui mérite, ben, il a les portes ouvertes et nous ferons le nécessaire pour qu'il parvienne à cet aboutissement qui est de maîtriser ces outils-là et obtenir un bon job. Tous ceux qui sont passés par le laboratoire et qui travaillent ici en RDC peuvent en témoigner que l'OSFAC leur a ouvert des portes pour des postes assez intéressants de travail.
Alors vous m'avez dit plus ou moins 100 étudiants qui se sont spécialisés dans ce domaine, mais le laboratoire est aussi ouvert aux non-étudiants, à certains chercheurs. En tout cas pour les étudiants, ça c'est sûr, c'est gratuit.
Oui.
Est-ce que c'est un programme, vous l'avez dit, financé par des ONG, est-ce que le gouvernement vous soutient là-dessus?
Il y a un soutien du gouvernement parce que les locaux qui sont mis à notre disposition sont des locaux de l'université de Kinshasa et donc nous bénéficions quand même des locaux qui sont assez spacieux et qui sont fournis à titre gratuit par l'université. Donc nous considérons cela comme une contribution du gouvernement à travers le ministère de l'enseignement supérieur universitaire qui a la tutelle sur l'université de Kinshasa. Et donc cela est une contribution. Mais le gouvernement contribue aussi d'une autre manière. Les formations que nous dispensons sont aussi adressées à un public cible qui n'est pas étudiant. Ça peut être des chercheurs, mais aussi des personnes qui sont dans la vie active. Donc nous avons reçu, depuis la création du laboratoire, des fonctionnaires du ministère de l'Environnement, du ministère du Plan, du ministère de la Santé. Nous avons reçu des institutions internationales, des organismes internationaux comme l'OMS, comme le HCR, comme la MONUSCO, comme de tous horizons pour se former à l'utilisation de ces outils. Dans ce cas-là, la formation est payante, évidemment. Et ce que nous arrivons à obtenir de cette formation payante, ben nous le reversons pour équiper le laboratoire, pour maintenir le matériel. Et c'est comme ça que depuis près de 15 ans, c'est un laboratoire qui est toujours en place et qui continue sa tâche de formation.
Alors si je viens dans le laboratoire, qu'est-ce que je vais observer? Moi, j'observe la Terre, vous regardez là où il y a des forêts, là où il y en a moins, là où il y a des cours d'eau, là où il n'y en a pas du tout.
Tout à fait, donc les images satellites qui sont de différents types, mais on ne va pas entrer évidemment dans tous ces détails-là, mais permettent d'observer la Terre. Et donc vous avez un appareil photo, un peu comme un appareil photo qui est tout en haut, comme un selfie, mais de beaucoup plus haut. Et on regarde
le
la Terre.
Le télescope?
Voilà, comme une sorte de télescope. Et alors on regarde la Terre. Et on voit ce qu'on peut voir en fonction du type d'image. On peut voir des grands ensembles, on peut voir des grands massifs forestiers. Donc ce sont des images qui ont une résolution, comme on dit, qui est un peu plus faible. Mais il y a des images qui sont aussi beaucoup plus précises, où on peut voir des bâtiments, on peut voir des véhicules, etc. Et donc nous sommes davantage spécialisés dans le suivi du couvert forestier. Donc on observe les forêts, là où il y a moins de forêts, et on essaye alors de comprendre pourquoi est-ce qu'à cet endroit il y avait de la forêt l'année passée, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc on peut initier différentes études qui permettent d'acquérir une meilleure connaissance des forêts congolaises. Et tout cela, nous le publions, nous le faisons savoir pour que, au niveau national, on contribue, avec notamment le ministère de l'Environnement, on contribue à la connaissance de la ressource forestière de la RDC.
Secteur porteur, vous l'avez dit. Alors, autre fait, je vais dire important dans votre parcours, Jean-Paul Kibambe, c'est que vous, en revenant, je pense, de la Belgique, vous avez mis en place, une fois de plus, avec certains, on va dire, collègues à vous, le collectif des docteurs à thèse de l'UNIKIN.
Oui.
Il y avait un problème à la base, c'est que les nouveaux professeurs n'étaient pas reconnus.
Oui.
Et il fallait, on va dire, une régularisation du ministère de tutelle pour que près de 300 professeurs soient reconnus comme tels.
Tout à fait. Et donc, lorsqu'on revient dans mon cas de Belgique, avec d'autres collègues qui revenaient d'autres pays, on revient au Congo. Alors que tout le monde vous dit, il faut pas y retourner, y a pas grand chose à y faire, vous avez des doctorats, vous pouvez rester ici. On se rend compte qu'en arrivant, nous ne sommes pas reconnus, nous ne sommes pas mécanisé, comme on dit dans le domaine ici de la fonction publique, alors que nous sommes professeurs d'université. Et l'université a besoin de jeunes professeurs qui vont prendre la relève académique que tout le monde appelle de tous ses voeux. Et donc au départ, on est resté un peu pendant 3, 4 mois, 5 mois, mais on avait déjà une charge horaire, donc on assurait des enseignements sans être payé. Donc on s'est dit, on va se mettre ensemble, donc on a formé un groupe, un noyau, avec différents collègues, pour pouvoir porter cette revendication-là. Et donc ce groupe, on l'a appelé le collectif des docteurs à thèse de l'Université de Kinshasa. Pour revendiquer, nous étions pour l'Université de Kinshasa une 60aine sur la liste de ceux qui devaient avoir leur situation régularisée. Mais dans les échanges avec le gouvernement, il est apparu que ce problème était beaucoup plus large au-delà de l'UNIKIN parce que ça concernait l'ensemble du pays. Et après plus ou moins une année et demie, deux ans de revendications, d'échanges avec des débats, avec parfois, oui, des sit-ins pour pouvoir nous faire entendre, ben, le gouvernement a régularisé, et cela est sans doute une première dans l'histoire de ce pays, près de 300 professeurs sur l'ensemble du territoire national. Alors nous recevions des coups de fil de Ngandajika, de Bukavu, des gens que nous ne connaissions pas et qui disaient « Professeur, merci pour ce que vous avez fait pour nous ». Pour nous, c'était simplement évident que l'on devait être reconnu parce que nous avons travaillé dur, nous avons les diplômes pour, il y a un besoin au niveau du pays.
Mais qu'est-ce qui bloquait ? Qu'est-ce qui bloquait ?
Il y a différentes choses qui bloquaient parce que bon, il y a un budget pour ça, donc il fallait que le budget puisse être préparé. Il y a des arrêtés ministériels de nomination, donc cela peut prendre du temps parce qu'il faut des commissions de vérification, etc. Mais nous étions totalement disposés, nous avions tous les diplômes. Non, mais tout cela prenait du temps. Peut-être qu'aussi le problème n'était pas pris à très très accord au départ par les autorités, mais au fur et à mesure les choses se sont améliorées. Et mais voilà, il fallait ce temps pour que ça puisse être régularisé. Ça fait déjà un peu plus d'une année maintenant, une année et demie je crois, tout fonctionne correctement, mais il a fallu quelques
petites batailles.
Voilà,
vous m'avez dit, peut-être pour terminer, vous ne croyez pas en la chance, hein. Pour vous, c'est le travail. Et il faut améliorer les capacités des Congolais, notamment à travers ce genre d'outils, en tout cas pour votre domaine, l'utilisation des images satellites.
Oui. La chance, oui. Pourquoi
elle
pas
existe.
Si on est chanceux, bon, voilà, on est chanceux. Mais je pense que ce qui est vraiment à notre portée de tous, c'est de travailler durement et cela avec un acharnement par rapport à l'objectif que l'on veut atteindre.
Parfois, on n'a pas les mêmes opportunités, on n'a pas le même parcours. Il y en a qui sont moins chanceux, entre guillemets.
Oui, c'est vrai. Ça arrive. Donc, il y a un brin de chance quelque part. Donc, je pense
vous
aussi
vous situez
que
où, vous ?
J'ai eu un brin de chance, mais je pense que j'ai travaillé dur pour pouvoir atteindre ce que je suis arrivé à faire aujourd'hui, qui n'est pas extraordinaire, mais qui me porte à nouveau un peu plus loin, je crois, pour faire davantage de choses. Pour mon diplôme d'État, par exemple, je me levais à 5h du matin tous les jours. Pendant 3 mois, j'étudiais de 5h du matin à 21h avec deux petites pauses, une à midi et une à 16h. Alors j'étais certain que je ne ferais pas moins de 85% et ça a été le cas. Pendant mon DEA, je me suis dit, ben il te faut une grande distinction parce que si tu vas aller plus loin, il n'y a que ça. Et j'ai travaillé dur et j'ai eu la grande distinction. Donc il y a effectivement un facteur chance quelque part, mais je pense que la chance couplée avec le travail, on ne peut pas compter que sur la chance en disant, ben voyons voir ce qui se passe. En travaillant, je pense qu'on attire même quelque part cette chance-là et donc on est porté par une sorte de bonne étoile. Parce qu'on essaye de mettre du sien et le mettre de manière acharnée, moi je dirais ça.
Alors,
en fait, un acharné du travail.
Un jeune de 15 ou 17 ans qui veut justement embrasser cette filière-là, qu'est-ce que vous lui direz ? Viens parce que c'est un secteur porteur, viens parce qu'au sortir de ton université, tu es sûr d'avoir un travail ?
Je lui dirais surtout, viens parce que ce que tu vas faire est passionnant. Observer la Terre à travers des images satellites est d'abord extrêmement passionnant. Parce que vu l'immensité de nos forêts congolaises, hein, elles représentent plus de la moitié du territoire national. Donc la RDC c'est 2,345,409 km². C'est gigantesque. La moitié, un peu plus que la moitié, sont les forêts. On n'a aucun moyen de les observer si ce n'est avec des images satellites. Juste cela, c'est déjà extrêmement passionnant. Donc je dirais d'abord cela. Oui, ce que tu vas pouvoir faire est extrêmement passionnant. De deux, c'est un secteur qui est porteur, c'est clair. On ne trouve pas encore, ça ne court pas encore les rues, des télédétecteurs bien formés. Et de trois, il a l'occasion de pouvoir s'insérer dans des créneaux avec d'autres universités du monde en étant exactement sur le même diapason et continuer d'apprendre parce que c'est une science qui est en pleine mutation. Et donc tout ça ensemble et un cadre de travail comme les laboratoires, comme ce qu'on essaie de mettre en place avec les étudiants avec lesquels nous travaillons, est passionnant. Et donc pour ça, je pense que c'est effectivement un jeune peut se sentir porté à embrasser cette carrière-là.
Mais il y a des débouchés professionnels ici, au niveau du pays ?
Il y a beaucoup de débouchés professionnels, aussi bien dans le privé que dans le secteur public, ou au niveau des ONG ou des organismes internationaux. Quelques exemples. La plupart des étudiants qu'on a eus au laboratoire, un bon pourcentage est employé par les Nations Unies, que ce soit au PAM, à la MONUSCO,
les différentes agences onusiennes.
Oui. Dans le secteur privé, les exploitants forestiers, parce que la forêt, on peut l'exploiter, mais on doit l'exploiter durablement. Et pour l'exploiter durablement, il faut des plans d'aménagement, etc. Et les images satellites peuvent contribuer à faire ce travail-là. Dans tout ce qui concerne à la régie des eaux, par exemple, on a quelques étudiants qui sont là parce qu'il faut faire le plan pour tracer les canalisations, etc. Et donc, avec des images satellites et couplées ces technologies des systèmes d'information géographique, on peut. Avec les lignes d'électricité, il y a des débouchés partout.
Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Paul Kibambe, d'avoir accepté d'être notre invité.
C'est moi qui vous remercie.
Vous étiez notre étoile de la semaine. Vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, secrétaire chargé de l'enseignement au sein du département des gestions des ressources naturelles à l'UNIKIN et vous travaillez comme chargé de questions liées au changement climatique et RED+, au sein de la Wildlife Conservation Society, un projet financé par l'USAID. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à Thérèse Kankou et François Kadima étaient à la présentation. Nana Bolodja et Alemoto. On se retrouve au prochain numéro. Merci de rester fidèles au programme de Radio Capi.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. D'où nous l'a écrit, car dans la nuit tout s'efface. Mais leur trace. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit.